Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des Idées du Grain. Ce soir, comment commémorer ceux de 14 ? Ils seront plus d'une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement ce dimanche à Paris pour commémorer le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Un rendez-vous pour la paix, sous l'Arc de Triomphe, sans défilé militaire, mais pas sans les soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale, puisque pendant sa semaine de tournée sur les lieux de la bataille, Emmanuel Macron a tenu à honorer la mémoire des poilus. Un de leurs représentants, l'écrivain Maurice Genevoix, fera son entrée au Panthéon. Il fallait une polémique, sans quoi la semaine n'aurait pas été complète. Eh bien, le chef de l'État s'en est chargé en évoquant le grand soldat que fut le maréchal Pétain, considérant comme légitime qu'il soit célébré demain aux Invalides avec les autres maréchaux de la Grande Guerre. Alors, finalement, Pétain n'y sera pas, Emmanuel Macron non plus d'ailleurs. Ce faux pas aura au moins permis de réfléchir à la question du qui honorer et du que commémorer. Alors justement, comment commémorer ceux de 14 ? Eh bien, commençons par un petit détour dans le passé.
Un demi-siècle s'est écoulé sans que le drame de la Grande Guerre se soit effacé de l'âme.
Voilà le message des commémorations. Ici, mesdames et messieurs, au milieu des tombes, dans le silence des morts, c'est toujours l'espérance qui surgit comme un cri.
Mais dans cette journée à laquelle la pire des guerres a donné une signification si profonde, c'est à tous les morts pour la France, vos frères dans le sacrifice, que la nation rendra désormais aussi hommage.
Monsieur Maginot m'a fait l'infini honneur de me désigner pour choisir celui des 8 cercueils qui représenterait le soldat inconnu. J'ai déposé mon bouquet sur le 6e cercueil.
Vive la République ! Vive la France !
Un rayon de lumière, lueur éphémère, rampe encore sur terre, au long des boyaux. La nuit tombe, tombe, apprêtons la tombe, et la mort en trombe pour bien des héros. C'est l'heure indicible.
Voilà, vous aurez sans doute reconnu quelques anciens chefs de l'État. Également, alors ça peut, ça c'est peut-être un petit peu moins évident, Auguste Thin, qui fut donc désigné pour choisir le tombeau du soldat inconnu, et puis la chanteuse Damia qui évoque justement cette guerre de 14-18. Vous les aurez reconnus et vous allez les reconnaître, deux des membres de notre club ce soir. Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir,
qu'on peut retrouver tous les jours du lundi au vendredi à 11h50 pour le tour du monde des idées, et c'est dans Culture Monde. Et puis Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous, c'est le samedi à 12h45 sur France Culture pour la suite dans les idées, et c'est le site AOC. Puis notre invité cette semaine, Bénédicte Chéron, bonsoir.
Bonsoir.
Historienne, vous enseignez à l'Institut catholique de Paris, vous êtes spécialiste du fait militaire et vous venez de publier aux éditions Armand Collin « Le soldat méconnu, les Français et leurs armées, état des lieux ». Alors je voudrais qu'on commence par une question qui peut paraître assez simple, qu'il est sans doute, mais posons-la néanmoins. Qu'est-ce qu'on commémore ? Je vais commencer avec vous, Bénédicte Chéron, en ce 11 novembre 2018. Est-ce qu'on commémore la fin de la guerre ? Est-ce qu'on commémore une victoire militaire ? Est-ce qu'on commémore la mémoire des millions de soldats qui sont morts pendant ce conflit ? Un peu de tout ça ?
Ça n'est pas du tout une question simple. Et précisément, si ça l'était, je crois que bien des débats qui agitent le paysage à la fois des historiens, mais plus largement toute la communauté nationale depuis quelques jours et quelques semaines, n'auraient pas lieu. Ça n'est pas une question simple, parce qu'on commémore effectivement une victoire, puisque de fait il y a eu victoire d'une des parties en présence, et que c'est cette victoire qui permet la signature d'un armistice, puis la paix et l'établissement de la paix, pas forcément très durable comme on l'a vu par la suite, mais on commémore aussi, et c'est inévitable, ce qu'a été le prix de cet achèvement du conflit. Et le prix de cet achèvement du conflit, c'est effectivement une guerre dont les blessures physiques et morales collectives n'avaient pas été égalées.
Est-ce que vous diriez, Bénédicte Chéron, que le fait que ce soit le centième anniversaire, ça change un peu la nature justement de la commémoration.
Alors oui, parce que ça on le constate tous et il n'est pas besoin d'être historien pour le constater. Dès qu'on est sur un chiffre rond pour une commémoration, de fait, il y a une symbolique qui est beaucoup plus forte. Les 100 ans sur beaucoup de commémorations sont un cap toujours à passer, parce que c'est en général aussi le signe qu'un certain nombre de générations qui ont connu les événements en question ne sont plus présentes, que d'autres, que la question de la mémoire ne se traite plus de la même manière. Il y a toute une époque où on considérait que tant que il y avait des vivants, des survivants, des témoins vivants, on était dans le champ de la mémoire, et qu'à partir du moment où les témoins étaient morts, on entrait dans le champ de l'histoire. On sait maintenant que les processus de mémoire collective font que cette mémoire dure au-delà de la mort des témoins, et que donc cette mémoire collective, elle est forcément complexe et forcément à la fois douloureuse et ayant besoin d'être apaisée, parce qu'elle a été blessée de manière très durable par ce conflit.
Comment est-ce que vous répondez-vous à cette question, Sylvain Bourmeau, que commémore-t-on le 11 novembre, ou plutôt que faudrait-il commémorer ? Je ne sais pas si c'est comme ça que vous la poseriez.
Oui, finalement, elle est peut-être mieux posée comme ça, dans le sens où c'est une bataille pour la commémoration. On ne peut pas être d'accord. Ces enjeux de mémoire sont des enjeux éminemment politiques, du temps présent. C'est pas ce qui s'est passé dans le passé qu'on est en train de régler, ça n'aurait aucun sens. C'est éventuellement d'ailleurs des projections dans l'avenir. Et ce qui vient d'être dit est très juste, s'agissant de la place de la mémoire. Comment pourrait-elle avoir disparu dès lors qu'on serait entré dans un temps de l'histoire avec la disparition des acteurs de cet événement historique? Non, au contraire, on est encore plus, je dirais, dans un moment de la mémoire, puisque la mémoire fait l'objet désormais de politiques publiques formalisées comme telles. Il y a toujours eu des politiques de la mémoire, mais désormais, elles font l'objet de politiques incroyablement sophistiquées, proliférantes. C'est surtout ça le fait. Elles sont aujourd'hui proliférantes, et c'est moi j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de commémorer? La fin de la commémoration de la Première Guerre mondiale. Parce que ça fait 4 ans qu'on commémore, et je pense que c'était une folie que d'installer dans cette durée de 4 ans, sous prétexte que c'était un centenaire, cette commémoration. À quoi ça rime? Il faut qu'on pose la question de l'efficacité, ou plutôt de l'inefficacité des politiques mémorielles. Elle commence à être posée par des chercheuses. Je pense au travail de Sarah Gainsburger et de Sandrine Lefant, qui ont publié un livre très intéressant sur la question. On est pris dans des frénésies commémoratives en tous sens, qui sont des lieux de bataille politique. Alors on peut les analyser comme tels, et j'espère que c'est ce qu'on va faire dans l'émission. Mais faut pas être dupe et penser qu'on va pouvoir tous se mettre d'accord dans le pays sur ce qu'il faut commémorer.
Brice Couturier.
Écoutez, moi, je suis très inquiet face à toute forme d'instrumentalisation d'une hécatombe aussi effroyable à laquelle ont participé mes deux grands-pères. Et je suis très hostile, en effet, à l'idée qu'on puisse utiliser leur sacrifice, leur souffrance inouïe dans le sens de nos petits conflits politiciens du moment. Ça me paraîtrait vraiment indigne. Oui, il y a une mémoire, oui, il y a une histoire, et il ne faut pas mélanger les deux, parce qu'on sait que la mémoire est sélective et que l'histoire tend, elle essaye de tendre à une forme d'objectivité. Je vous dirais que pour moi, ce que représente très personnellement le 11 novembre 1918, je ne crains pas de vous le dire, c'est une victoire de la France. Parce que c'est une victoire qui est obtenue à la suite d'une terrible défaite, qui est celle de 1870-1871, qui prive la France d'une grande partie de ses forces vives, de son territoire, qui pousse un grand nombre de nos compatriotes alsaciens et lorrains à quitter le pays où ils sont nés pour se réfugier en France, parce qu'ils veulent continuer à rester français. Donc il y a un très fort patriotisme. C'est ce patriotisme-là qui a fait la preuve de sa force, de sa détermination, et qui l'a emporté après 4 ans de souffrance absolument inouïe, et surtout n'instrumentalisant pas ces souffrances. Et quand je dis c'est une victoire de la France, évidemment je ne veux pas dire que je me réjouis de la défaite des Allemands, parce que les Allemands sont nos amis et nos frères aujourd'hui, ils ne l'étaient pas à l'époque.
D'autant qu'on sait ce qu'a produit les conditions de la défaite, hein.
Oui, exactement. Enfin bon, ça c'est autre chose. Le fait que la victoire française a été extraordinairement mal gérée par les gouvernants français de l'époque, et qu'ils ont poussé quelque part les Allemands à la revanche, comme les Allemands nous avaient poussé à la revanche en 1871, évidemment c'est le terrible échec de l'histoire européenne. C'est ce qui fait que nous sommes partis pour une guerre de 30 ans et que nous nous sommes ruinés réciproquement. Aujourd'hui, moi ce que je retiens, c'est l'image de Helmut Kohl et Mitterrand main dans la main devant l'ossuaire de Douaumont. c'est ça qu'il faut vraiment retenir aujourd'hui, c'est ne pas oublier le sacrifice, ne pas passer sur l'héroïsme, ne pas mépriser la victoire de nos ancêtres et penser à l'avenir. L'avenir, c'est la construction de l'Europe avec les Allemands.
Alors moi, ce qui me paraît assez surprenant, c'est qu'on constate justement qu'il y a un certain nombre de lectures par rapport à ce que doit être cette commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Or, moi, j'avais plutôt l'impression, Bénédicte Chéron, que s'agissant en tout cas de la Première Guerre mondiale, il y avait, si ce n'est un consensus, mais enfin un accord assez large justement de ce qu'avait représenté ce moment. Comment expliquer que 100 ans après, on a l'impression que ça crée énormément de dissensus aujourd'hui?
Le consensus mémoriel, il est rare, hein, et Sylvain Bromont l'a dit, le principe même de la mémoire, c'est que précisément, enfin, la politique mémorielle sélectionne et on commémore pour le présent beaucoup plus qu'on ne raconte l'histoire quand on commémore. Donc le consensus mémoriel, il n'existe pas. En histoire, les courants historiographiques sur la Première Guerre mondiale, ils sont extrêmement variés, extrêmement divers. Ils permettent d'avoir un paysage exhaustif de ce qu'a été cette guerre. Je le dis d'autant plus librement que je ne suis pas historienne de la première guerre mondiale. Et permet, en conjuguant ces différents courants, d'avoir une vision très large.
J'entendais moins le consensus historiographique que le consensus, on va dire, politique et
On a eu l'impression de ce consensus parce que à partir des années 80, la figure du poilu, parce que le temps a passé, parce que les derniers poilus, les derniers survivants font l'objet aussi d'une certaine curiosité, la figure du poilu envahit tout notre champ culturel, avec une production cinématographique par exemple très abondante, mais cette présence du poilu dans les années 80, il est vrai qu'elle s'articule autour d'une représentation qui est essentiellement une représentation victimaire, et que cette représentation victimaire n'est qu'une des facettes sur le plan historique de ce qu'a été l'engagement des forces armées françaises, avec tout l'Empire derrière la France, des forces armées alliées dans cette guerre. Et donc cette figure du poilu représentée, notamment dans le champ culturel, hein, essentiellement comme une figure de victime, ne suffit pas à raconter l'histoire, bien évidemment, et ça les historiens en sont très conscients. Mais on assiste à ce processus de sélection mémorielle qui fait précisément qu'on ne peut pas penser que des commémorations vont être le tout du récit de l'histoire, qu'en tout cas une politique mémorielle, parce que des commémorations peuvent l'être, mais qu'une politique mémorielle ne peut pas être le tout du récit de l'histoire.
Mais est-ce qu'on pourrait justement alors peut-être considérer que le fait d'essayer de sortir aujourd'hui les poilus de cette condition de victime pour en refaire des héros, notamment à travers la panthéonisation à venir de Maurice Genevoix, qui est censé représenter, c'est ce qu'a dit le président Emmanuel Macron, l'ensemble des poilus, est-ce que cette volonté d'héroïsation du poilu pourrait expliquer qu'aujourd'hui ça fasse à nouveau débat, Sylvain Bourmeau?
Cette héroïsation, elle ne vient pas de nulle part. De la même façon que les propos du président de la République qui ont donné lieu à polémique toute la semaine, je suis désolé, mais on ne va pas faire comme si il n'avait pas été tenu.
Voilà, on va évidemment parler sur Pétain.
Oui, mais ça fait partie vraiment de la réponse à votre question. Genevoix, comme les propos sur Pétain, sont les produits de batailles politiques, de luttes politiques, ou d'entrepreneuriat de mémoire. S'agissant de Genevoix, c'est un long processus mené par des éditeurs, par une association de Maurice Genevoix, pour la panthéonisation. Ça ne vient pas, ça tombe pas du ciel comme ça, c'est pas une idée de com'. Il y a eu des mobilisations social de gens qui, depuis longtemps, pensent qu'il faut que Genevoix soit au Panthéon. C'est la victoire de ce travail entrepreneurial de mémoire d'un petit groupe de gens autour de celui qui est devenu, après la Seconde Guerre mondiale simplement, parce qu'il ne l'était pas entre les deux guerres, après la Seconde Guerre mondiale seulement, l'incarnation de ce poilu de 14. S'agissant des propos sur Pétain, c'est pareil. Si Emmanuel Macron a dit ça, on peut faire très sérieusement l'hypothèse que c'est parce que dans cette itinérance mémorielle, il a eu l'occasion d'être au plus près de certains au sein de l'état-major des armées aujourd'hui qui poussent dans ce sens, qui veulent célébrer la figure du maréchal, qui est à l'articulation entre le politique et le militaire, et qui sont dans des attitudes on ne peut plus belliciste et aujourd'hui inquiétante. C'est-à-dire que pourquoi on va insister sur tel aspect de 14? Un certain nombre de gens au plus haut des armées aujourd'hui en France ont en tête non pas ce qui s'est passé en 14, mais ce qu'ils pensent préparer d'une future guerre européenne. Alors certes, c'est probablement pas les Allemands qui sont devenus nos alliés depuis longtemps dans la construction de l'Union européenne, mais il y a d'autres figures qui sont construites comme des figures ennemies aujourd'hui, et il y a un discours guerrier qui fait écho à ce que vous dites sur la célébration à la fois de la victoire, la montée en puissance du soldat, du poilu, et puis la reconnaissance des maréchaux. Tout ça fait bloc, tout ça est une lecture de la guerre de 14-18, et je pense que le président de la République a eu la faiblesse de se laisser influencer par son chef d'état-major particulier, par le chef d'état-major des armées, qui porte ses visions bellicistes aujourd'hui au plus haut.
Juste avant de vous faire réagir, Brice Couturier, petit détour autour de cette hypothèse, justement, Bénédicte Chiron, d'une pression peut-être de l'état-major pour que, puisque c'était ce qui était prévu au départ, le maréchal Pétain figure parmi les maréchaux qui seront honorés demain aux Invalides. Finalement, il a été retiré. Et puis, les propos donc d'Emmanuel Macron, je vais pas faire le verbatim, hein, parce que ça serait trop long, mais voilà, il explique qu'on peut avoir été un grand soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Il parle d'une célébration légitime. Est-ce qu'il y a eu, vous qui connaissez bien justement ce milieu militaire, on peut imaginer qu'il y a eu une pression. En tout cas, qu'est-ce que ça représente Pétain aujourd'hui pour les militaires français ?
Alors, je crois qu'il y aurait vraiment un profond malentendu à penser que les états-majors d'aujourd'hui sont bellicistes, parce que précisément, d'abord les militaires.
Je suis pas le seul à le dire, hein.
Je sais bien, mais je ne suis pas la seule non plus à le dire, et je m'appuie sur un certain nombre de travaux de recherche qui ne sont pas seulement les miens. Les militaires d'aujourd'hui sont des Français parmi les Français qui sont aussi les héritiers des poilus de 14-18 précisément, et ils ne sont pas insensibles à ces héritages mémoriels. Et pour les fréquenter, je connais peu, alors peut-être que je ne sonde pas assez les cœurs et les reins et les cœurs. Mais je ne vois pas de démarche de glorification de Pétain au sein des armées à l'heure actuelle. Et là où, sans doute, il y a eu malentendu, c'est qu'en fait, il y a eu la sensation que dans la démarche mémorielle qui était entreprise par le président de la République, il y avait un pan de la mémoire de la guerre de 14-18 qui était celle de cette mémoire militaire, de la conduite de la guerre, des enjeux tactiques et stratégiques, du rôle qu'ont eu aussi les officiers dans ce conflit, dont certains ont été défaillants et incompétents, mais d'autres, y compris par exemple parmi les lieutenants et les capitaines, étaient des appelés au même titre que les poilus et ont fait preuve d'inventivité, d'humanité, d'intelligence tactique pour épargner des morts. Et donc je crois qu'en fait, quand les militaires entrent dans cette démarche, c'est cette mémoire-là qu'ils veulent saluer, et cette mémoire qui a été, il est vrai, plutôt marginalisée dans le processus mémoriel qui est en cours. Et la question de Pétain, je pense, en fait, a été... Je suis historienne et je n'ai pas d'archives et pas accès aux sources, donc je parle avec une grande prudence, mais je le lis davantage comme une question négligée, y compris par le pouvoir politique dans cette affaire, puisque le chef d'état-major des armées n'a pas de rôle politique à tenir. En revanche, le président de la République en a un. Donc s'il y en a un qui doit trancher cette question en amont, c'est lui. Et elle n'a pas été tranchée depuis plusieurs semaines. Je le vois davantage de cette manière-là, comme une question non anticipée, non tranchée, qui surgit brusquement par une polémique qui ne permet pas de comprendre réellement les ressorts mémoriels qui sont en jeu.
Et vous, comment est-ce que vous le voyez, Brice Couturier ?
Écoutez, d'une part, moi, je ferais remarquer que les propos d'Emmanuel Macron concernant Philippe Pétain sont exactement dans la continuité de tous ceux de tous ses prédécesseurs, y compris le général de Gaulle, qui en savait certainement plus long sur cette affaire que nous autres aujourd'hui. Je rappelle les propos de Gaulle à Douaumont en 66. Si en l'extrême hiver de la vie, l'usure de l'âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables, la gloire qu'il acquit à Verdun et qu'il garda en conduisant l'armée française à la victoire ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. Mitterrand ne jamais oublier en Pétain ni la gloire de Verdun ni la honte de 42. Quant à Chirac, un homme a su prendre les décisions qui conduiront à la victoire. Il restera comme le vainqueur de Verdun. Cet homme, c'est Philippe Pétain. Hélas, en juin 40, le même homme, parvenu à l'hiver de sa vie, couvrira de sa gloire le choix funeste de l'armistice et le déshonneur de la collaboration. Quand Macron dit exactement la même chose, d'un seul coup, bizarrement, ça fait scandale. Mais c'est peut-être parce qu'on est en période préélectorale.
Je vais citer Elisabeth Lévy, qui dirige le magazine Causeur, Brice Couturier, et qui dit ceci. Si Emmanuel Macron s'était contenté de rappeler factuellement la contribution de Pétain à la Grande Guerre, pas de problème, ça aurait été parfaitement acceptable. Mais il a déclaré qu'il était légitime de l'honorer. Et par ailleurs, était prévu justement qu'il soit honoré avec les autres maréchaux aux Invalides. Est-ce que peut-être que davantage finalement que les propos d'Emmanuel Macron, c'est cette idée que de l'honorer avec les autres maréchaux qui pose quand même problème.
Est-ce que c'est le cas ? J'ai trouvé sur Internet une interview de la ministre des Armées à une chaîne concurrente de la nôtre, RTL, qui date du 30 octobre dernier, où elle dit qu'il est hors de question, bien entendu, d'honorer la mémoire du maréchal Pétain, puisque le maréchal Pétain, certes vainqueur de Verdun, est aussi l'homme qui nous a déshonorés en trahissant la patrie en juillet 40, en liquidant la République et en se vendant à l'ennemi à partir en particulier de 1942.
Donc ça n'a jamais été envisagé.
Mais
bah si, c'était envisagé. Il a été retiré, mais ça a été envisagé.
Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'on ne pourrait pas à la fois avoir été le vainqueur de Verdun et le liquidateur de la France.
Mais tout le problème,
Brice.
Tout le problème, Brice, est dans le à la fois. C'est-à-dire que c'est la rhétorique macronienne du en même temps. Le problème, c'est l'équivalence. Le problème, c'est de poser comme une équivalence deux faits chronologiquement distincts et dont l'un est quand même être autrement plus important que l'autre au regard de l'histoire et juridiquement, parce que De Gaulle avait tort de dire condamnable, il aurait dû dire condamné et condamné à l'indignité nationale. Donc soit l'indignité nationale ça ne veut plus rien dire, je vous conseille le très beau livre d'Anne Simonin sur le sujet, soit ça veut dire quelque chose et on s'y tient à cette condamnation de 1945 et quand on est président de la République on ne peut pas placer sur un mode d'équivalence ces deux faits historiques. C'est ça la faute d'Emmanuel Macron en l'espèce, c'est d'avoir parlé de la sorte alors même que des travaux d'historiens sont aujourd'hui disponibles, ce qui n'était pas le cas au moment où De Gaulle s'exprimait. J'écoutais par exemple ce qu'a eu à en dire l'un des meilleurs historiens de la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah, Tal Brutmann, qui dit bah oui, c'est comme dire Hitler aussi a construit des routes. C'est pareil que ça, c'est aussi énorme de la part de Macron que de dire c'est vrai, Hitler il a aussi construit des routes. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas dire quand on est président de la République, même s'il s'agit de vérités historiques, en tous les cas qu'on ne peut pas dire comme ça.
Bénédicte Chéron, ce Brice Couturier.
Et encore une fois, ce qui peut être entendu dans le champ de l'histoire, c'est-à-dire que évidemment les historiens écrivent et racontent ce que Pétain a apporté dans la Première Guerre mondiale et quelle a été son action. Ne peut pas être dit de la même manière dans le champ de la mémoire, précisément parce que la mémoire est un champ de bataille et que ce champ de bataille, on ne peut pas négliger les strates successives qui se sont empilées au cours de l'histoire. C'est là que cette polémique a explosé de manière très violente, précisément, je pense, par défaut d'anticipation, parce que cette confusion entre l'histoire et la mémoire et précisément le rôle que jouent les politiques mémorielles ne permettent pas toujours, en amont, d'éclairer quels sont les débats qui risquent de se poser.
J'aime beaucoup la réflexion d'Henri Rousseau, qui est un bon historien du régime de Vichy, qui dit « C'est bien parce que Pétain a été un grand soldat en 18 qu'il a été rappelé en 40 et qu'il a pu jouer ce rôle funeste. » Hier, dans Le Monde, Serge Klarsfeld, qui connaît pas mal cette histoire aussi, me semble-t-il, a écrit « Il ne me viendrait pas à l'esprit de gommer ses mérites militaires de la Première Guerre mondiale à Pétain, puisque ce sont justement ceux-ci qui explique aux nouvelles générations le rôle funeste qu'il a joué de 1940 à 1944, en particulier à l'encontre de la population juive. Donc on peut pas séparer les deux. Je ferai juste remarquer à Sylvain Bourmeau quelque chose. Les gens qui ont nié à l'armée française ses vertus après la guerre de 14-18, on les retrouve en juin 40, enfin plutôt l'été 40, à se moquer de cette même armée française en déroute, et je pense au Décombre, ce livre épouvantable de Robatet, et au Beau drap de Céline, qui sont probablement les deux livres les plus antimilitaristes qui n'ont jamais été écrits contre l'armée française et qui se moquent de l'armée française et de sa déroute épouvantable de juin 40. Donc il faut pas se tromper de bataille. Il y a une façon de se moquer de l'armée qui donne l'extrême droite et qui fait la collaboration avec Hitler sur le thème la France est femelle, la France est lâche et il faut se donner à son vainqueur. Donc moi, je maintiens très haut l'idée que la victoire de 11 novembre 1918 est une victoire de l'héroïsme du soldat français.
Est-ce que c'est une victoire de l'héroïsme, d'ailleurs, du soldat français, Bénédicte Chéron? Et sur la façon, justement, d'honorer la mémoire et le courage des combattants, on voit bien qu'il y a plusieurs niveaux de combattants, alors qu'ils sont honorés, justement, à travers ce centenaire. Il y a les poilus, on va dire les soldats du rang, les officiers, et puis il y a l'état-major demain aux Invalides. Est-ce qu'on commémore la même armée à travers ces deux niveaux, disons.
Alors, il y a vraiment deux lectures historiques. Il y a une lecture qui est celle qu'il a très longtemps emportée, hein, en particulier après de la guerre d'Algérie, parce qu'il faut bien se rendre compte aussi qu'on écrit l'histoire des guerres du passé en ayant aussi la mémoire des guerres plus récentes en tête. Hein. Et évidemment, on a une lecture aussi française qui est alimentée par la défaite de 1940, hein, qui vient sérieusement écorner et abîmer l'image de l'héroïsme combattant, puisque précisément, c'est une défaite. Évidemment, la suite, l'occupation, le rôle de Pétain sous l'occupation vient aussi abîmer cette image. Et puis la guerre d'Algérie fait qu'on a aussi une lecture particulière parce que ce traumatisme national continue de peser dans la manière et alimente aussi une mémoire qui est davantage une mémoire victimaire des soldats de la base qui seraient les victimes des états-majors ou de leurs chefs militaires. Dans le cas de la Première Guerre mondiale, c'est un sujet qui est compliqué à traiter de cette manière-là, parce que oui, il y a le poilu d'en bas, mais il se trouve que par les effets de ce qu'était l'armée nationale à l'époque, qui est une armée de conscription, on a aussi un corps des officiers qui est composé quasiment pour moitié de non-professionnels, comme dirait le conseiller mémoire de l'Élysée, de ces civils que l'on a armés, qui est une des déclarations qui a aussi un peu échauffé les esprits au début de ce processus de commémoration. Et donc, en fait, opposer des civils que l'on a armés à un état-major professionnel est une lecture qui est très réductrice et qui ne rend pas compte du tout de la complexité de l'engagement de l'armée française, du fait que très vite, les états-majors, pour une partie, sont limogés en 1914 parce que jugés comme incompétents et que ces chefs militaires-là sont remplacés par de nouveaux chefs, plus jeunes, plus inventifs, plus soucieux de ce que sont les soldats de la base. Et donc voilà, on a ces lectures toujours un peu stéréotypées qui ne permettent pas de rendre justice à ce qu'a été la complexité des destins combattants.
Sylvain Bourmont ?
Moi, je pensais très important de se soucier de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale ou pendant n'importe quelle époque historique, surtout quand il s'agit d'époques aussi tragiques. Mais je pense que c'est aussi très important de se soucier de la situation présente. Et encore une fois, quand on parle de mémoire, il ne faut jamais perdre de vue qu'on parle d'abord du présent. Donc, pour en revenir à ces propos sur le maréchal Pétain, qui ont occupé l'espace public toute la semaine, comment faire en sorte, dans le contexte présent, d'oublier que quelques semaines avant ces propos, le maréchal Pétain était déjà au cœur d'une polémique suite à la publication du livre de l'auteur d'extrême droite Éric Zemmour, qu'un historien comme Patrick Veil a pris la décision d'aller sur un plateau d'une chaîne de télévision débattre avec lui précisément de ce type de questions, de quel était le rôle de ce Pétain pendant la Deuxième Guerre mondiale, que d'autres historiens ont écrit plutôt dans les colonnes du Monde qu'il valait mieux ne pas discuter avec ce genre de figure qui fait partie du paysage de l'extrême droite aujourd'hui dans notre pays. Donc comment ne pas tenir compte de cet élément-là associé au nom du maréchal Pétain? Comment ne pas tenir compte d'une information qui, certes, est tombée ce matin, mais qu'on pouvait avoir autrement? Le Premier ministre, sur sa page Facebook, a fait état d'une recrudescence des actes antisémites. On aurait envie de dire à Monsieur Philippe, mais qui a eu mille fois raison de s'alarmer publiquement de ce qui se passe, mais ne pourriez-vous pas vous appuyer sur cette funeste nouvelle, monsieur Édouard Philippe, pour expliquer au président de la République qu'il ne peut pas parler du maréchal Pétain, en tous les cas en parler comme ça, parce que précisément on est dans ce pays où se produit cette recrudescence des actes antisémites, et qu'il y a peut-être un lien entre le fait de parler de ce maréchal dans les pamphlets de monsieur Zemmour et cette recrudescence des actes antisémites.
Mais donc, Sylvain Bourmont, est-ce qu'Emmanuel Macron n'en tient pas compte également?
On se demande.
En évoquant, par exemple, alors là aussi, d'ailleurs, ça a été débattu d'un point de vue évidemment historiographique, de la comparaison avec la période des années 30, en disant attention, aujourd'hui, on est confronté au même danger nationaliste, et en faisant en sorte de démilitariser la date du 11 novembre 2018, puisqu'il n'y aura pas de défilé militaire pour commémorer ce centenaire, avec l'idée aussi d'envoyer un message à quelques mois des élections européennes, de dire, bah voilà, finalement, ce qu'on commémore aussi, c'est la paix, c'est la fin de la guerre, avec l'idée...
Mais d'accord, pourquoi parler de Pétain? Quel rapport?
Oui, mais il y a peut-être le fameux en même temps dont on parle systématiquement. Ah bah, c'est contradictoire avec ce qu'il dit lui, peut-être. Je ne sais pas si c'est contradictoire avec ce que,
avec ce que vous venez de décrire.
Brice Couturier.
Non, mais écoutez, le problème, c'est que quand on commémore la fin de la victoire...
Quand on collabore, vous avez failli dire.
Quand on commémore la victoire du 11 novembre 1918, il est difficile de retirer sur la photo l'image du maréchal Pétain. C'est comme si les staliniens, souvenez-vous, retiraient la photo de Trotsky parce qu'il ne fallait pas qu'il soit sur la photo. À ce moment-là, il faudrait aussi retirer la photo de Staline à Yalta parce que c'est quand même une sombre crapule aussi. Voilà, il peut y avoir... Moi j'aime bien ce qu'a mis mon ami Raphaël Antoven sur... Twitter ce soir. 1. Pétain fut un grand soldat. 2. 25 ans après, Pétain devint le visage de la honte et de la lâcheté française. 3. Rappeler le premier n'est pas nier le second. 4. Reconnaître les mérites d'une crapule n'est pas une façon d'excuser ses crimes. Voilà. Il y a dans le même personnage quelqu'un qui a été le vainqueur de Verdun et il y a effectivement la crapule qui a vendu son pays.
Mais ça, ce sont des faits historiques sur lesquels tout le monde est d'accord.
Ben non, parce que c'est là-dessus qu'on taquine Macron depuis une semaine pour essayer de faire croire qu'il est passé chez Zemmour. Enfin, soyons sérieux. Est-ce que vous pensez vraiment que Emmanuel Macron, dans sa campagne électorale pour les élections européennes, va chercher les amis d'Éric Zemmour qui est non seulement raciste mais qui en plus est anti-européen.
J'ai dit qu'il ne tenait pas suffisamment compte du contexte dans lequel il parlait.
Ben écoutez, raconter l'histoire, c'est pas tenir compte systématiquement du contexte politique du moment. Tout le monde aura oublié Zemmour dans 10 ans, mais personne n'aura oublié la victoire du 11 novembre 1918.
Bénédicte Chéron.
Non, juste, je m'engagerai pas sur ce débat-là qui n'est pas du tout de mon ressort. En revanche, pour revenir sur cette question du défilé, en fait, on a beaucoup dit il n'y aura pas de défilé militaire, mais en fait, personne n'a vraiment réclamé de défilé militaire. Ça fait très longtemps que le 11 novembre est, sur le plan militaire, une cérémonie statique. Donc, en l'occurrence,
mais pourquoi est-ce qu'on pointe autant alors le fait qu'il n'y ait pas de défilé militaire?
Parce que précisément, au moment où ces commémorations ont été présentées, annoncées à l'Élysée, il y a des mots qui ont été prononcés qui visaient à annoncer qu'on ne ferait pas trop militaire, qu'on ne ferait pas trop ceci. Et c'est là que la politique mémorielle est toujours un sujet complexe, parce qu'en voulant déminer des sujets, on en allume d'autres, et on annonce des choses qui ne doivent pas avoir lieu, mais qui n'ont jamais été prévues. Et le 11 novembre, tel qu'il se déroule depuis plusieurs années maintenant, est d'abord une cérémonie statique autour de l'Arc de Triomphe, et d'autre part, est devenue aussi la cérémonie lors de laquelle on rend hommage à tous les soldats français morts pour la France, y compris en opération extérieure, parce que cela, il est vrai qu'on en parle peu dans le champ mémoriel. Et donc, cette question du défilé militaire, me semble-t-il, en fait, ne se posait pas.
Votre livre, Bénédicte Chéron, qui est consacré aux relations qu'entretiennent les Français avec leurs armées, s'intitule « Le soldat méconnu ». Il va donc y avoir la panthéonisation de Maurice Genevoix, écrivain, mais d'abord au titre de soldat, au titre de poilu, et il sera censé représenter tous les poilus. Le fait que des soldats entrent au Panthéon, c'est-à-dire dans ce temple des héros civils, alors que les militaires ont déjà leur temple, c'est plutôt les invalides. Est-ce que là, vous y voyez peut-être la volonté d'une forme de réconciliation, si tant est qu'il y a eu fâcherie, entre les Français et leur armée?
Alors, je ne sais pas s'il y a eu fâcherie entre les Français et leurs armées. Hein, c'est un long sujet à éluder. En tout cas, il y a une forme, effectivement, de tentative d'allier à la fois l'image du poilu comme victime et aussi l'image du poilu comme combattant qui n'a pas absolument tout subi, qui a aussi été un acteur actif, qui a exercé son libre arbitre, qui a exercé une forme d'intelligence propre à ce qu'est le contexte de la guerre. Et en ce sens-là, effectivement, on peut estimer que ces différentes facettes du poilu méritent d'avoir une place dans l'espace public. Après, la difficulté, encore une fois, c'est la manière dont le politique se saisit de ces figures de l'histoire et la manière qu'il a de les présenter aux Français.
Avec d'ailleurs des fois des figures qui appartiennent à l'histoire extrêmement contemporaine. On avait vu il y a quelques mois une discussion autour de l'héroïsation du colonel Beltrame qui s'était substitué à une otage à Trèbes dans le département de l'Aude et qui avait été tué par le terroriste. Et derrière, il y avait eu un fort mouvement justement d'héroïsation d'un militaire Hitler, qui était peut-être le premier héros de la guerre contre le terrorisme, si tant est qu'on vit vraiment une guerre contre le terrorisme. Comment est-ce que vous voyez aussi peut-être une continuité peut-être dans ce phénomène-là, Sylvain Bourmeau?
Oui, et plutôt en m'inquiétant, parce que s'il s'agit de commémorer ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, je ne vois pas au nom de quoi on commémorerait davantage les héros poilus que les soldats qui, comme l'un de mes arrière-grands-pères, sont morts dans l'une des toutes premières batailles de la guerre, en août 1914, sans avoir le temps de devenir le héros que peut-être il ne s'est pas devenu de toute façon. Qu'en sait-on ? Voilà, mort à 19 ans dans cette guerre. Moi, je pense qu'on doit commémorer ces gens-là exactement avec la même dignité, le même respect qu'un héros. Pourquoi faudrait-il commémorer davantage les héros ?
La difficulté, elle est sur le mot de héros, en fait. Hein. C'est que là encore, les processus d'héroïsation, ils sont très complexes. Et le politique, il joue un rôle, mais le poilu, il est devenu une figure de la mémoire nationale avant que le politique lui-même ne s'en saisisse dans les années 80.
Brice Couturier ?
Moi, je voudrais juste mentionner un livre que je vais conseiller aux éditeurs de France Culture parce qu'ils aiment les livres. C'est le livre de Bernard Maris, le fameux économiste oncle Bernard qui a été tué lors de l'attentat contre Charlie Hebdo, avec qui j'avais beaucoup parlé de Genevoix parce que vous savez qu'il vivait, enfin vous savez pas, il vivait avec la fille de Maurice Genevoix et il avait écrit un livre absolument bouleversant sur Genevoix face à Jünger que je trouve extrêmement éclairant. Il avait analysé ces deux témoignages de deux très grands écrivains, le français Maurice Genevoix et l'allemand Ernst Jünger. Et je trouve que c'est un très beau livre parce qu'il montre, si vous voulez, l'humanisme, on ne peut pas dire le contraire de Genevoix, et le nihilisme de Jünger, qui est aussi très intéressant, mais qui montre une toute autre version de l'héroïsme, l'héroïsme dans le sens de l'ivresse du combat, les pleurs de joie de Jünger quand il monte au front et qu'il sait qu'il y a des chances de se faire tuer et de tuer. Et en face, vous avez l'attitude de Genevoix qui est tout autre, en effet. Et je trouve que Bernard Maris en parlait fort bien. Ce livre s'appelle « L'homme dans la guerre », Maurice Genevoix face à Ernst Jünger. Il était sorti peu de temps avant la mort de Bernard Maris et c'est chez Grasset.
Il n'y a plus de poilus qui sont vivants aujourd'hui. On ne sait pas comment ils auraient vécu les débats autour justement des commémorations de 14-18. Mais il y a une interview intéressante dernièrement dans Télérama de l'historien Rémi Dalisson qui dit ceci, Bénédicte Chéron, « En célébrant le 11 novembre, les poilus ne voulaient pas glorifier l'armée ou la patrie, mais commémorer la der des der, le patriotisme appliqué aux commémorations a fait perdre de vue cette volonté. »
Oui, mais c'est précisément toute la complexité de l'histoire. C'est qu'ils ont eu une action qui a permis la victoire, qui a permis la paix. Et de fait, en fait, ceux qui connaissent la guerre sont rarement ceux qui sont bellicistes. C'est ce qui permet de comprendre aussi que dans le temps long, la plupart de ceux qui expérimentent ce qu'est le feu, ce qu'est l'épreuve du feu, ne sont pas ceux qui sont les plus bellicistes. En général, les politiques sont les plus bellicistes, hein, sont ceux qui exaltent la guerre pour elle-même. D'une part. D'autre part, je voudrais quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, souligner que ces polémiques, ces débats un peu houleux, ils effacent aussi dans l'espace public et dans le champ médiatique tout ce qui a été porté comme initiative diverse par la base, par les Français, autour de ces commémorations depuis 4 ans. Alors la mission du centenaire est une politique mémorielle, avec tous les défauts des œuvres humaines et des politiques mémorielles, mais elle a aussi permis qu'émergent par la base, et ce sont souvent des Français qui ont pris des initiatives dans des champs très divers, scolaires, muséographiques, militaires, etc., et que ces initiatives qui ont été labellisées, j'en parle vraiment d'autant plus librement que je ne fais pas partie de la mission du centenaire, en fait portent une richesse et une multiplicité de formes de commémoration que l'itinérance mémorielle ont tendance à faire oublier.
Eh ben merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Brice Couturier, Sylvain Bourmeau et Bénédicte Chéron. Je rappelle donc le titre de votre dernier ouvrage, Le Soldat Méconnu, publié aux éditions Armand Collin. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre, la télécharger. Vous pouvez également nous écrire. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron, avec à la prise de son ce soir au Bel Air, le bar de Radio France, Charles Bouticourt, Lucas Derode et Pierre Monteil. J'aperçois Arnaud Laporte qui s'impatiente pour la dispute.
Je ne m'impatiente pas.
Je ne vois que vous quand vous êtes là. Vous savez.
Je vous fascine, je vous dis ça.
La dispute dans 3 minutes, ce sera
Ce sera des séries ce soir, pas du cinéma, mais des séries télévisées que vous aimez tant, Hervé Gardette. Et
je
politique,
déteste les séries télé, moi.
Politique demain midi, c'est pas ce que vous m'avez dit dans le couloir.
Politique demain midi, dans la continuité de la discussion de ce soir, on va s'intéresser au patriotisme. Au nom de la patrie, nous serons en compagnie d'un autre historien, Frédéric Rousseau.
On sera à l'écoute, bien sûr.